une histoire dans le rétroviseur.
En 1876, l'Américain Graham Bell trouve le moyen de transmettre les modulations de la voix humaine. Le téléphone est en train de naître. Dans cette course à l'innovation subventionnée par les compagnies de télégraphes, il bat d'une heure un autre inventeur, Elisha Gray. Et ce sera bientôt le tour d'Edison d'inventer un appareil capable de fonctionner sans avoir recours au brevet que Bell a déposé. L'appareil de Graham Bell débarque en France l'année suivante, où il est présenté à l'Académie des sciences par le mécanicien de précision Louis-Clément Breguet, fournisseur attitré de l'administration en matériel télégraphique. Breguet est physicien et horloger, il habitait d'ailleurs, cela ne s'invente pas, quai de l'Horloge à Paris. Sa descendance laissera davantage de traces dans l'histoire puisque ses deux petits-fils se lanceront au début du XXe siècle à la conquête du ciel. Abandonnons les avions et revenons au téléphone. L'engouement pour la machine de Graham Bell n'est pas au rendez-vous, et c'est peu dire. Il s'en faut d'ailleurs de peu que cette invention géniale ne soit pas retenue pour figurer dans le programme de l'Exposition universelle de 1878. À cela, une raison très simple, l'invention est certes révolutionnaire, mais elle ne fonctionne pas bien. Les militaires qui ont été chargés de la tester n'en sont pas sortis enthousiastes. Ce n'est pas avec ça qu'on récupérera l'Alsace et la Lorraine. Si Bell est resté dans l'histoire, ce n'est pas le cas de l'Italien Innocent Manzetti, qui 30 ans plus tôt travaillait sur un projet de télégraphe vocal, mais aussi d'un autre oublié, Charles Boursel. Supposons qu'un homme parle près d'un disque mobile assez flexible pour ne perdre aucune des vibrations de la voix, et que ce disque interrompe périodiquement le courant d'une pile. Alors, on pourrait avoir à une certaine distance un autre disque qui exécuterait simultanément les mêmes vibrations. Le passage d'un courant électrique dans un fil métallique transforme en un aimant un morceau de fer doux placé dans le voisinage du fil. Dès que le courant cesse, le fer doux est désaimanté. Cet aimant et l'électro-aimant peut ainsi alternativement attirer ou repousser une plaque métallique. Il serait parfaitement possible de disposer cette seconde plaque métallique de manière à lui faire répéter les mêmes vibrations que la première. Ce résultat serait exactement le même que si la personne avait parlé dans le voisinage immédiat contre cette deuxième plaque. En d'autres termes, l'oreille serait affectée comme si les sons lui étaient parvenus directement à travers le premier disque métallique. Vous n'avez pas tout compris, voire même, comme moi, rien compris du tout, ce n'est pas grave. C'était ainsi que Charles Boursel présentait son projet devant l'Académie des sciences en 1854. L'homme était ingénieur et ingénieux, également chef de station des lignes télégraphiques de l'Ouest. Bref, il en connaissait un rayon. Pourtant, ses supérieurs balayèrent d'un revers de main sec, voire méprisant, son projet de transmission électrique de la parole. Sa hiérarchie, avouons-le, fort peu visionnaire, déclara ceci. L'employé Boursel est invité à limiter son activité, à l'envoi des dépêches pour lesquelles il est rétribué et à s'occuper de choses sérieuses. Ah là là. En 1854, la France n'était vraiment pas une start-up nation.
Alternant FM.